comment on peut tous se reconnaître dans un peu notre chemin unique à travers ce chemin-là de la non-violence.
Pendant tout le mois de mars 2023, une trentaine de personnes ont participé à la retraite « Construire une culture d'empathie ». Pendant ces 5 semaines, on rencontrait différentes personnes qui ont une vision de la non-violence et qui construisent à leur manière une culture d'empathie. Alors aujourd'hui dans le podcast, vous allez entendre Arielle Prince-Ferron, qui est une conteuse, mais surtout ces temps-ci une vannière, quelqu'un qui travaille avec le vivant, le végétal. Mais c'est aussi quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui m'inspire par son chemin de vie. Une personne qui a beaucoup à partager, autant dans les connaissances, mais surtout dans le savoir-être, pour construire cette culture d'empathie et de non-violence. Alors, bonne écoute! Culture d'empathie, c'est un podcast où je parle avec des personnes qui sont inspirantes et qui participent à l'émergence d'une culture d'empathie. Une culture basée sur la non-violence, la compassion, la bienveillance et le respect de toutes les formes de vie sur Terre.
Le temps est venu de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, prendre soin de soi, prendre soin de moi, prendre soin de nous, prendre soin de vous. Le temps est venu de se lever, le temps est venu de partager. Le temps est venu de s'élever. Le temps est venu de s'élever. So everybody say, so I got a weakness. Well, we gotta stand up and arise. Everybody say,
time has come to stand up.
Time has come.
Our time has come to
stand up. Our time has come to stand up and rise.
Time has come to stand up.
Stand up.
Our time has come to
care and share.
Quelqu'un qui m'inspire beaucoup, puis j'avais le goût que tu viennes, Arielle, donner ton grain de sel à venir un peu plus raconter l'histoire de cette culture d'empathie puis de la non-violence à travers toi et ton expérience, que chacun puisse se reconnaître que ça prend divers parcours pour faire partie de cette communauté-là. Alors, je vous présente, c'est Arielle Prince-Ferron. Allô, Arielle.
Salut tout le monde. Fait que, ben premièrement, merci. C'est comme une joie d'être là aujourd'hui. Puis de quand Colin m'a invité au début, il y avait une partie qui était comme, ben là, je suis pas comme une star de la non-violence. Puis il était comme, non, c'est justement ça. C'est que, comme comment on peut tous se reconnaître dans un peu notre chemin unique à travers ce chemin-là de la non-violence. Fait que, je vais vous partager mes inspirations, puis un peu mon vécu à moi, puis qu'est-ce qui ce matin, quand je pensais à toutes vous autres, que j'avais aucune idée qui allait être là, mais qu'est-ce qui me venait de partager. Fait que voilà. Je pourrais commencer par juste un petit peu de où j'arrive, puis comment j'arrive ici aujourd'hui avec vous autres. Puis moi, il y a plusieurs années, j'ai fait un bac en environnement. Fait que j'ai tout le temps eu ça de fond, de l'amour de la vie, puis du vivant, puis de la nature. Mais à la fin de mon bac, je me suis dit, c'est pas en enseignant comment faire le compost que j'allais changer le monde. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, là, à comme cette touche-là. Puis ce qui m'est venu, c'est comme, ben moi, ce qui va changer le monde, c'est notre façon d'être en relation avec ce monde-là. Puis c'est ma façon de un, de ma relation avec moi-même. Si je suis capable de m'aimer, d'être amie tellement avec moi, ben c'est parce que je vais être aussi capable d'être amie avec les arbres, la rivière, mon voisin, ma famille. Pour moi, c'est comme, c'est tout relié, ça. Puis c'est devenu clair que c'était ce chemin-là que j'avais envie d'emprunter. Puis c'est à ce moment-là que... c'est autour de ce temps-là que je pense que j'ai rencontré Colin à travers des amis. Puis on a commencé à comme, expliquer un peu, à faire plusieurs collaborations ensemble. La CNV est arrivée sur mon parcours, un cadeau merveilleux. Au moment où j'ai réalisé que ça n'avait pas besoin d'être un outil de plus dans mon pack sac pour être la gentille fille qui fait bien des choses. Parce qu'au début, c'était un peu ça pour moi, la CNV. C'était comment mieux parler, encore, tu sais, comme être meilleure, être plus fine, plus gentille. Puis tranquillement, ça s'est défait de trouver mon chemin vers comme tellement plus d'authenticité, puis de vérité, puis de respect de mes limites, puis de savoir dire oui, non. Fait que c'est un cadeau quand j'ai réussi à défaire tout ça. Puis, fait que j'ai vraiment plongé dans cet univers-là de partager la non-violence puis la connexion à la nature avec les enfants, les jeunes, dans toutes sortes de programmes. Puis, et un peu ce qui relie. Puis maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, je suis vannière, j'ai une entreprise qui s'appelle Brain Nature, fait que je tresse les végétaux. Fait que c'est le fil, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai découvert ce que mes mains avaient envie de créer. Puis moi, ma plus grande source d'inspiration, c'est vraiment la nature. C'est les brins que je tresse. C'est eux qui me... Je dirais que c'est eux mes plus grands enseignants. Quand tu tresses un panier de saule, ben les tiges, ils me ramènent à l'instant présent. Ils me ramènent à... Suis-tu vraiment là quand mes branches font cric? Est-ce que je te présente au mouvement? Quand ma branche, elle ne veut pas aller où je veux aller, est-ce que je l'ai écoutée ou j'ai-tu regardé? Y avait-tu un nœud? Est-ce qu'elle est assez longue? Fait que c'est comme si toutes les questions que je me pose à travers la confection des paniers, ben pour moi, c'est les mêmes choses que je me pose dans la vie. Puis on dit que c'est ça que je me dis, c'est que peu importe ce qu'on fait, moi, je suis vannière, il y en a peut-être un autre qui est cuisinier, l'autre qui est travailleur social, ben c'est toutes ces petites choses-là qui sont nos éléments de notre outil de relation avec la vie, avec les autres, qui offrent comme plein d'opportunités pour apprendre. j'ai eu plusieurs comme, je sais pas, inspirations dans mon parcours. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment initié à comme la vision du monde, des peuples, des Premières Nations. J'ai rencontré plein d'aînés, vraiment comme des cœurs qui m'ont vraiment soutenue. Puis un jour où moi, je me suis jamais dit que j'étais une militante, une activiste, ça ne m'avait jamais parlé, ça. J'étais comme la façon d'être sur la ligne de front, de brandir le poing, puis de vouloir défendre toutes sortes de causes. Ça ne me parlait pas, la façon que c'était fait. Puis un jour, on m'a invité à faire un des voyages, je pense, les plus fous que j'ai fait, c'est de traverser le Canada en camion puis de me rendre à Standing Rock, où il y avait le grand mouvement pour la protection de l'eau, pour l'eau. L'eau, c'est la vie, la protection du territoire là-bas. Puis je pense qu'à ce moment-là, ben une des choses que j'ai compris, puis ce qui m'a parlé profondément, c'est que tout ce mouvement-là nous aidait à trouver le commun entre les humains, puis entre toute la vie, à place de focusser sur ce qui nous sépare. Fait que moi, c'est ça que j'ai réalisé quand on était là, puis qu'il y avait un jeune sur la ligne de front qui prend une cruche d'eau, puis qui avance, puis qui la donne à un policier qui est comme tout barricadé. Ben pour moi, c'était un des gestes qui m'a fait le plus pleurer, de comme faire « Oh my God! » Puis de voir cet homme-là, la police, qui prend l'eau puis qui la boit, tu sais. C'était comme ce geste-là, cette eau-là qui fait que ben j'en ai autant besoin que toi, tu sais. Puis pour moi, c'était comme ça montrait un des gestes les plus courageux qu'un humain peut avoir, c'est de faire ce pas-là vers l'ennemi, un peu comme Colin y parlait plus tôt, tu sais. Parce qu'on a l'impression qu'on ne pourrait jamais être en lien, qu'on s'en est complètement séparé. Tu sais. Fait que c'est comme ça. Après avoir vécu ce moment-là, j'étais comme, bon, ben s'il y a des gens là-bas qui sont capables de faire ça dans ce contexte-là, ben moi aussi, je suis capable de faire ça avec ma famille, mon voisin, mon chum, avec les gens avec qui je peux vivre des challenges un peu à tous les jours, tu sais. Pourquoi pas, tu sais. Ouais.
Se donner des défis qui sont créateurs pour nous. Aller un petit peu vers nos peurs. Puis, je me souviens quand tu avais fait ça, ce voyage-là au Dakota. Ben, c'est ça. Ça avait été un grand défi, mais tu étais revenu, je me souviens, avec vraiment des apprentissages incroyables autour de juste de stratégies de lutte non violente qui étaient vraiment inspirantes. Et je me souviens, j'avais beaucoup aimé que tu avais amené ton côté artistique, que tu avais fait des cartes postales aussi, qui avaient circulé partout au Québec, qui étaient pour financer, je pense, ce mouvement-là. Ouais. J'avais trouvé ça beau que tu utilises ton art aussi. Je t'ai toujours vu, tu sais, au fond, toi, Ariel, je t'ai toujours vu utiliser l'art, la nourriture, l'empathie comme tes outils pour créer une culture d'empathie. C'est beaucoup ce que je t'ai vu faire dans ta vie. Ouais. Et je voudrais savoir pourquoi, pour toi, l'empathie pour soi, l'empathie pour les autres. On parle de culture d'empathie en ce moment. C'est pour toi, c'est quoi cette empathie-là? Mm-hmm,
mm-hmm. Oui, l'empathie pour moi, c'est comme ça part de la curiosité, puis bien la tendresse, mais la tendresse là, ultime et extrême envers soi-même. Là, tu sais. Comment est-ce que je peux tellement reconnaître, puis voir, puis juste dire comme l'empathie, pour moi, c'est comme dire allô à tout ce qui se vit, tu sais, en moi ou chez l'autre, avec cette tendresse-là, puis cette curiosité-là, qui ouvre comme un espace où les jugements, ils peuvent tomber. Parce que les jugements, ils sont là, ils passent, ils viennent nous visiter, là, tu sais. Mais c'est un espace où on peut les laisser se dissoudre pour comme les voir au-delà de nos jugements. Puis ce que j'aime de culture d'empathie, c'est comme l'invitation à dire, OK, bon, ben maintenant, vivons-le ensemble. Des fois, je pense à, c'est pas une mode, là, mais tu sais, on choisit ce courant-là. Puis qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend dans mon sac à dos à outils, dans ma façon de marcher, la façon que je vais cuisiner ce jour-là, la façon que je vais choisir, faire mes choix dans la vie le matin en me levant? Puis comment je choisis de me lever de mon lit ce matin-là? Puis c'est quoi la première chose que je vais faire pour me nourrir puis être capable d'être l'humain que j'ai envie d'être sur cette planète-là?
Mm-hmm. Ça m'arrive souvent de simplement me le dire, tu sais. Comment, de me le rappeler, comment je peux être ami avec moi-même ou comment sois ami avec toi-même.
Ouais.
Simplement se le dire. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de. C'est pas juste s'aimer. S'aimer, c'est comme si. OK, je devrais m'aimer. OK, ça. Mais être ami, c'est comme si. C'est un peu plus imagé. Être ami avec soi, ça ressemble à quoi? Puis c'est comme un peu. Un ami, ça prend quelqu'un dans ses bras. Ça lui offre un cadeau, ça l'écoute. Alors, j'aime beaucoup cette phrase-là, simplement se dire, je vais essayer d'être ami avec moi-même. Puis toi, c'est quoi aujourd'hui, là, une façon que tu as été ami avec toi-même, Ariel? Aujourd'hui ou hier? Ou...
Bien, juste avant l'appel, je me sentais un petit peu stressée. T'sais. J'étais comme, je m'en vais parler à plein de monde. Puis j'ai choisi d'aller dehors, 35 minutes. Respirer de l'air. Puis, tu sais, moi, j'aime ça des fois. Juste... mettre la main sur mon cœur ou mon corps, puis faire OK, puis faire juste allô, hey my God, il y a quelque chose de vraiment stressé, puis prendre le temps de connecter avec ça. Ouais. Ça, c'était ma façon d'être aimée. Puis sinon, il venait quelque chose d'autre en lien avec être ami avec soi-même. C'est comme aussi quand on a l'impression qu'on est tellement pas là-dedans, pas dans la culture d'empathie, tu sais, qu'on a l'impression qu'on... Ben, comment est-ce que je peux me prendre par la main, c'est comme ça, être ami, puis faire « OK, allô, tu sais, c'est correct, il s'est passé ça, puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour revenir, tu sais, revenir à... » Ces temps-ci, mon plus gros défi de pratique de la non-violence et de la culture d'empathie, c'est la relation avec mon amoureux. Puis notre pratique en ce moment d'être amie avec moi-même et avec l'autre, c'est quand ça dérape, ben juste de s'arrêter, faire « OK, ça ne marche pas », puis on respire. Respirons. On ne va rien dire, on va juste respirer. Puis tu sais, déjà, ça désamorce.
J'aime ça ce que tu apportes. Moi, avant l'appel, je t'avais marché aussi, puis je voyais des pensées de jugement envers une décision que j'ai prise envers moi-même. Puis juste le fait de juste reconnaître ça, puis de dire, OK, je suis en train de me juger en ce moment. Est-ce que je peux être un peu plus doux avec moi-même? Parce que vraiment, cette décision-là, je l'ai faite dans le meilleur... J'ai fait la meilleure décision à ce moment-là que je pouvais. Puis, juste d'amener de la compassion pour soi. Puis, il y a quelque chose d'autre. Puis là, bientôt, on va aller vers tout le groupe. Mais juste avant ça, Ariel, j'aimerais ça juste savoir, au fond, je vais ouvrir sur un autre petit quelque chose. En ce moment, on est dans une période en mars qui s'appelle la saison de la non-violence. Puis, c'est plusieurs organisations qui fêtent ça à chaque année, on pourrait dire fête ou qui le soulignent. C'est entre la date... C'est un peu plate les dates, mais à quelque part, c'est ça qui est arrivé. C'est entre le décès de Gandhi, qui était le 30 janvier 1948, et le 3 avril 1968, le décès de Martin Luther King. C'est-à-dire que la saison de la non-violence, c'est février-mars. C'est comme un moment où on se dit, on va étudier ensemble la non-violence partout sur la Terre, puis on va étudier la culture d'empathie. Puis c'est un bon moment pendant l'hiver pour faire ça. Moi, ça, c'est deux personnes qui m'inspirent beaucoup, puis dont je vais partager beaucoup de ressources pendant les prochaines 5 semaines. Je veux savoir, Ariel, peux-tu nous parler de quelqu'un, toi, qui t'a inspiré sur ton chemin?
Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qui me vient, c'est des aînés que j'ai rencontrés dans le Nunavut un été. Puis c'est vraiment comme un état d'être, là. Puis là, je disais parce que c'est plusieurs personnes, là, mais qui amenaient beaucoup là, l'humour puis l'humilité. Puis comme une relation au territoire puis à eux-mêmes dans une grande simplicité puis une lenteur. Puis on fait une chose à la fois. Fait que, c'est des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée.
Oui. Merci, Ariel. Et allez voir Brain Nature sur Facebook pour voir ce qu'Ariel fait dans son art de la vannerie, travailler avec ses mains et le végétal. Elle offre des ateliers, elle offre aussi la vente de certaines de ses créations. Et aussi, Ariel est super généreuse, elle nous laisse avec un conte pour terminer, le conte du cœur de l'arbre.
Alors... Fait qu'en petit bonus, on a eu l'inspiration que je vous offre un conte, parce que c'est aussi ce que je fais, être conteuse. Fait que, et c'est parti. Ce jour-là, il y avait un petit lièvre qui se promenait dans la forêt. Puis, il a trouvé un arbre. Oh, cet arbre-là, il était grand. Il y avait un tronc gigantesque, puis des racines. Là. Les racines, il y avait de l'air tellement confortable. Puis ses branches étaient tellement grandes, couvertes de feuilles, que dans cette journée-là chaude, le petit lièvre, ben, il a décidé d'aller se blottir au creux des racines. Puis il s'est presque endormi, mais à un moment donné, il a entendu, il a dit Lièvre! Lièvre! Puis là, il a levé la tête. Puis là, il a compris que c'était l'arbre qui lui parlait. Puis, il a entendu. Puis l'arbre, il s'est ouvert, juste au centre. C'était comme son cœur qui s'ouvrait. Puis il a entendu la voix de l'arbre dire « Viens, viens! » Puis là, le lièvre a sauté dans le trou de l'arbre. Et puis là, il a découvert le monde intérieur de l'arbre. C'était un univers magique. Il y avait tout ce que tu pouvais avoir envie d'avoir dans ta vie. Ce que tu avais envie de manger était là. Il y avait peut-être un gâteau au chocolat. Oh, c'était apparu. Ah, oh, puis il y avait des choses très loufoques. Hein? Au haut d'un arbre, il y avait un éléphant qui dansait le baladi. Et puis, il y avait des rivières de perles qui coulaient juste à côté, qui passaient juste à côté. Il y avait des étoiles, même le jour. Puis c'était un pays merveilleux. Et puis là, ben là, le lièvre, il a senti que c'était le temps d'y aller. Fait qu'il est ressorti. Puis le cœur de l'arbre, s'est refermé. Puis le lendemain, ben le lièvre, il avait envie de retrouver son ami l'arbre. Fait qu'il est retourné. Puis l'arbre, il a ouvert son cœur. Puis il est allé découvrir les trésors. Puis il s'était pas rendu compte, mais dans la forêt, il y avait un autre animal. Il y avait... un animal avec des grandes oreilles puis des petites dents puis quand la lièvre est ressortie de l'arbre cette journée-là, cet animal-là avec les dents, en fait qu'on ne savait pas trop c'était quel animal, il a décidé de rentrer vite 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 dans le trou du cœur de l'arbre avant qu'il se referme, puis il est rentré. Puis là, il avait tellement envie de garder tous les trésors pour lui qu'il s'est mis à tout prendre dans le cœur de l'arbre. Il s'est mis à tout prendre, à tout prendre, à tout prendre, à tout prendre. Puis, il est reparti avec tous les trésors. Puis le cœur, il s'est refermé. Il s'est tout ratatiné. Puis c'est comme s'il s'est refermé avec un grand pleur. Puis le lendemain, quand le lièvre est venu, les racines étaient plus froides. Puis, il n'entendait pas la voix de l'arbre lui parler. Puis, le cœur, il ne s'est pas ouvert. Puis, les feuilles, il ne chantait plus dans le vent. Alors là, le petit lèvre, il s'est dit, c'est passé quelque chose de vraiment triste pour qu'il ferme son cœur comme ça. Fait que il ne savait pas trop quoi faire, mais il a décidé qu'à tous les jours, il allait revenir. Puis, à tous les jours, il est revenu au creux des racines de l'arbre. Puis à tous les jours, il est venu se blottir, puis il a offert un petit peu de chaleur de sa boule de poils. Puis tranquillement, Mané s'est mis à sentir des petits pétillements dans les racines. Puis le vent qui recommençait à chanter à travers les branches des arbres et des feuilles. Puis à un moment donné, le cœur de l'arbre s'est ouvert, juste un petit peu. Puis quand il a regardé dedans, il y avait moins de couleurs qu'avant. Puis la semaine d'après, quand il est revenu, l'arbre s'est ouvert un petit peu plus grand. Puis les couleurs ont commencé à revenir. Puis le chant des ruisseaux a commencé à revenir un peu plus à chaque jour. Puis c'est comme ça que grâce à l'amour, à la présence, à la chaleur du petit lièvre, qui savait que le cœur de l'arbre avait été blessé, avec toute cette présence-là à chaque jour, à un moment donné, le cœur de l'arbre s'est mis à se réouvrir, puis à se ré-remplir de trésors, puis à redécouvrir ses nouveaux trésors. C'est comme ça que cette histoire-là se termine, avec un lièvre et un arbre qui ont appris à grandir avec leurs cicatrices. Merci!
Si tu veux en savoir plus, je t'invite à visiter la page culturedempathie.org pour voir les textes, les podcasts, les formations et les événements, et à me laisser ton courriel pour qu'on puisse rester en lien. Merci et bonne écoute.
Peace.
venez d'entendre Marianne Aya-Omak avec Time Has Come. Merci aux supporters du podcast Culture d'Empathie, la revue intégrée.com. C'est une revue qui est en ligne, mais c'est aussi maintenant une revue qui est imprimée. La revue intégrée, c'est un magazine annuel dont la mission, c'est de proposer des nouvelles perspectives de vie, le partage d'expériences intimes et profondément humaines qui nourrissent l'élan créatif et transformateur. C'est une superbe magazine faite par une équipe en co-création ici au Québec, intégrée.com.